Bonjour à tous et à toutes. C'est l'heure de Force 7, le magazine hebdomadaire d'information régionale de Fréquence Mistral, préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Colline, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, l'entreprise Proman a accueilli à son siège manosquin la 5e conférence régionale de la stratégie pauvreté. Reportage dans ce magazine. La DLVA a signé son contrat de ruralité avec l'État. Plusieurs projets bénéficient de fonds conséquents. Un festival autour de l'habitat participatif début octobre à Saint-Michel-l'Observatoire. Le reportage de Mathieu Marc dans un instant. Étalé sur 6 mois, plusieurs ateliers pour aider les créateurs d'entreprises ont lieu sur l'agglomération manosquine. Le Pays d'Innois fête la randonnée ce week-end. Une quarantaine d'itinéraires est proposée. Le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Depuis un siècle, les musiciens et danseurs du Boumas Quadrille Sisteronais animent avec brio les places et rues de Sisteron. Chris Alessandri est allé à leur rencontre. Lutter contre la pauvreté est aussi l'affaire des entreprises.
C'est le mot d'ordre de la 5e conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté qui s'est tenue au siège de l'entreprise Proman à Manosque. L'objectif de cette conférence est de contribuer à renforcer les connaissances mutuelles des acteurs du social et de l'économie pour dépasser leurs représentations respectives et s'allier pour construire des passerelles au bénéfice des territoires et de leurs habitants, stipulent les organisateurs au rang desquels le préfet de région Christophe Mirmand, nous l'entendrons dans un instant, ainsi que Roland Gomez, président fondateur de Proman et de la fondation du même nom. Au menu des travaux, des échanges d'expériences et dispositifs et surtout des contacts entre collectivités, services de l'État, entreprises et associations. Des questions révélatrices de jeunes gens invités par l'école de la deuxième chance et mission locale pour exprimer l'énergie juvénile mais aussi leur incompréhension des méandres du monde du travail. Comment avoir de l'expérience à 20 ans si vous n'ouvrez pas vos portes? Quelles utilités les charges, TVA, URSSAF notamment, qui peuvent plomber un démarrage d'activité? La jeunesse s'interroge, mais aussi souhaite aller de l'avant. La société doit en tenir compte. Et les responsables ont répondu, à l'instar de Roland Gomez, qui invite les entrepreneurs et leurs partenaires à mutualiser les expériences. Pôle emploi a présenté les moyens et possibilités en la matière. Les entreprises prônent un travail en liaison avec l'école et des changements d'attitude. Ainsi, APS Prévoyance à Château-Renard qui recrute sans recourir au fameux CV ou encore les apprentis d'Auteuil qui préfèrent considérer que des familles traversent des difficultés plutôt que de dire qu'elles sont en difficulté. La nuance est dans la sortie. Ces approches de l'économie sociale et solidaire ont recueilli un bon écho du public, des entreprises et institutions. La conférence de Manosque a atteint ses objectifs. Attendons maintenant les changements, évolutions et bien sûr les résultats. Je vous propose d'écouter Christophe Mirmand et Roland Gomez. Ce dernier lance une action pour accompagner pendant 10 ans 1000 enfants de la région. Christophe Mirmand, vous êtes préfet de région. Votre sentiment sur cette réunion et sur la lutte contre la pauvreté?
Une conférence très intéressante parce qu'elle a permis de centrer nos débats sur le rôle de l'entreprise dans cette stratégie à la fois nationale et régionale de lutte contre la pauvreté. C'est la 5e fois que cette conférence était organisée, la première fois qu'elle était organisée dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la première fois que les acteurs qui y ont été associés ont centré leurs interventions, leurs témoignages, leurs réflexions sur le rôle joué par l'entreprise, l'employeur, pour pouvoir permettre de concourir à la résorption de la pauvreté sur nos territoires. On le sait, notre région est particulièrement concernée par cet enjeu. C'est la 3e région de France qui est la plus pauvre, si on s'en tient aux ratios, aux indicateurs. Et il est important que tous les acteurs soient mobilisés pour permettre de lutter plus efficacement contre ce phénomène qui touche des personnes vulnérables, qui touche également des personnes jeunes, parfois éloignées de l'emploi, parfois qui n'arrivent pas à franchir une barrière de verre pour accéder précisément à l'entreprise. Et pour être plus efficace, il faut construire une stratégie qui est déclinée en fonction des territoires, qui est adaptée aux problématiques que l'on rencontre ici dans un département qui est plus rural, mais qui compte également aussi de très belles entreprises. Nous étions aujourd'hui chez Proman, un exemple, je crois, d'entreprise qui met en avant des valeurs humanistes, des valeurs sociales. Et c'est pour cela que ces débats ont eu tout leur sens aujourd'hui à Manosque.
Le maire de Manosque, Camille Galtier, vous a fait une proposition de créer un laboratoire pour l'insertion ici même à Manosque. Votre réaction ?
Nous sommes à son écoute. Je crois qu'il est important que les propositions, les idées émergent du terrain. C'est aussi tout l'enjeu de cette stratégie. Peut-être que par le passé, on a pensé vertical, descendant depuis le niveau national vers le niveau local. Là, au contraire, il s'agit de construire en fonction des besoins des territoires. Et la proposition du maire, donc, bien évidemment, est à considérer avec beaucoup d'attention. Et l'État y sera très attentif. Toutes les propositions qui pourront émerger seront des laboratoires, des tests, des bancs d'essai qui auront peut-être vocation à être démultipliés ailleurs à l'échelle de la région.
De belles entreprises, vous l'avez cité Proman, il y en avait d'autres également, qui travaillent pour l'insertion justement des personnes. Il y a une dynamique qui est créée, aussi des associations comme les apprentis d'Auteuil qui ont une aura et en même temps une activité extraordinaire. J'ai été surpris en épluchant les listes des présents ici même de voir que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire n'était pas présente.
Elle est un acteur essentiel en tout cas de l'ensemble des politiques publiques que l'on met en œuvre. Elle fait partie des moteurs, je dirais, à la fois en termes d'identification des problématiques sur cette lutte contre la pauvreté. Et puis en même temps, elle fédère effectivement toutes les entreprises qui peuvent être sollicitées, qui ont vocation à intervenir dans le domaine de la solidarité. Et elle est un partenaire indispensable de cette démarche.
Roland Gomez, vous avez accueilli cette 5e conférence sur la pauvreté. C'est une réussite.
C'est jamais sûr, mais avec le recul et la fin de journée qui est arrivée, oui, c'est une réussite parce que les participants étaient nombreux, beaucoup de qualité. Les entrepreneurs étaient là et il y a eu, je pense, une attention particulière, surtout au projet final que je leur ai proposé avec la Fondation Proman.
Alors justement, c'est un projet qui va concerner milliers de jeunes et qui va démarrer dans le 04.
Alors oui, c'est un projet régional sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sera mené en chef de file par la Fondation Proman et avec d'autres acteurs qui ont de l'expérience et des outils que l'on mettra en commun pour gérer ça. Et l'objet de ce que l'on souhaite faire, c'est effectivement accompagner sur l'ensemble de la région 1000 enfants de l'âge de 12 ans jusqu'à leur majorité, en les accompagnant sur l'épanouissement de la vie en général, quoi, la formation, l'éducation, bien sûr, sur 10 ans. Hein. Donc un accompagnement long qui peut être très intéressant pour faire éclore des personnalités chez ces enfants-là, avec cette chance-là d'accompagnement qu'ils n'auraient peut-être pas eu par rapport à leur naissance, on va dire ça comme ça. Ce qui n'empêche pas aussi de les accompagner sur le sport, sur la danse, sur des événements, des concerts. Essayer de leur donner du bonheur et qu'ils sentent qu'on les aime. On n'est pas là que pour accompagner la pauvreté. On est là pour accompagner l'enfant et pour en faire, si possible, un adolescent épanoui.
On va suivre ce projet de la Fondation Proman avec grand intérêt, vous vous en doutez. Vous êtes président régional des CCI. Le thème habituel, le thème de ce moment, c'est justement l'augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien sûr, les salaires, et aujourd'hui, on peut parler que le SMIC va augmenter, dont les entrepreneurs, souvent, c'est pas une obligation, mais un entrepreneur normal, il fait suivre, s'il a des employés au SMIC, des augmentations, et puis il les répercute en pourcentage sur les salaires proches du SMIC, ça paraît tout à fait cohérent. Mais vous savez, on l'a bien dit aujourd'hui, je pense que chez moi, les gens n'ont pas trop à se plaindre. Beaucoup d'entrepreneurs essaient de payer au mieux leurs salariés, vous le savez bien, parce que peu d'entrepreneurs ne sont pas conscients que la seule richesse que l'on ait dans nos entreprises, c'est cette richesse humaine. On peut avoir les plus belles machines, si on n'a pas les gens riches d'expérience et riches presque de respect envers nous, parce qu'ils nous apprécient, parce qu'on est des patrons normaux, on va dire ça comme ça, on n'a rien. On peut pas faire avancer le chemin public ni l'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut avoir bien sûr les salaires en adéquation avec ce qui se fait, plutôt plus attrayant. On peut aussi y mettre des parties variables qui sont au mérite, mais moi je sais que quand j'étais salarié, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est largement équilibré, mais j'ai été plus longtemps salarié que patron. J'ai démarré mon entreprise à 40 ans hein, et j'ai commencé à travailler à 18 ans. Donc il y a toujours aussi ce côté de comment mon entreprise est gérée, comment mon patron me respecte, comment aujourd'hui il y a même des qualités environnementales, comment ils traitent l'environnement, qui font que les entrepreneurs choisissent ou pas une entreprise. Donc ce que je fais depuis 30 ans, facilement, ben aujourd'hui il faudrait se poser la question si ou pour les entreprises qui ne le font pas, il faut le faire aussi pour pouvoir recruter.
L'État soutient plusieurs projets de la DLVA.
C'est le cinquième contrat de relance depuis la fin juin, signalait en préambule la préfète Violaine Desmarais, ravie de signer celui-ci avec la collectivité la plus importante du département après le conseil départemental. Le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique met en cohérence et simplification les soutiens de l'État aux territoires ruraux. Un accent est mis sur les enjeux du changement climatique avec également des projets sociaux, culturels et économiques. Ainsi, les services de l'État, les parcs et les chambres consulaires ont apposé leur signature à côté de celle de Durance-Luberon-Verdon agglomération. Des subventions importantes et des taux de participation conséquents viennent appuyer des projets du territoire. Les écoles de Manosque, par exemple, verront 5 nouvelles chaudières pour leur rénovation énergétique. L'aide atteint 40%, soit 146 609 euros sur 364 000 euros. L'école maternelle de Riez, la mairie de Pierrevert ou encore la salle polyvalente de la Brianne et d'autres sont aussi sur les rangs. Les petites communes ne sont pas oubliées, avec une aide de 60% à la rénovation énergétique de 3 logements communaux au Castellet et également un coup de pouce de 20% sur la construction d'une déchetterie à Roumoul. En 2022, d'autres projets d'aménagement suivront. Citons la reconversion de l'école des métiers EDF de Saint-Tulle ou la modernisation du théâtre Jean le Bleu de Manosque qui bénéficieront de dotations d'équipement. Est-il besoin de préciser que ces chantiers et travaux profiteront essentiellement aux entreprises du territoire? La préfète Desmarais revient sur ce contrat et sur son calendrier de suivi.
Violaine Desmarais, vous êtes préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Quel est le sens de ce contrat que vous avez signé avec la DLVA?
Le sens de ce contrat, c'est de voir avec la DLVA, avec laquelle on travaille depuis plus de 6 mois sur ce contrat, comment on peut booster ces projets, les concrétiser, en amenant de l'activité économique à nos entreprises. C'est faire de la relance, en concrétisant les projets des collectivités, en transformant le département.
Il y a des fonds considérables qui sont consacrés. Ils étaient déjà dédiés?
On avait déjà des fonds qui existaient, mais on a repris les mêmes objets qu'on a pu abonder en termes de montants. Si je prends un exemple pour une enveloppe qui était de 1,8 million de dotation de soutien à l'investissement local, on l'a maintenue et on a apporté 2,9 millions de plus dans le département. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et après, on a tous les appels à projets France Relance qui sont des objets spécifiques.
Alors, ruralité, relance, transition écologique, on est là dans une problématique qui est d'avenir.
Ah, on est au cœur de la problématique des Alpes-de-Haute-Provence. Elle est d'avenir, elle est de présent, c'est aujourd'hui. Et on a vu d'ailleurs, à l'occasion de la signature de ce contrat, qu'on n'avait pas attendu de le signer pour concrétiser des projets, puisque sur les 63 projets portés par la collectivité, on a déjà versé un peu plus de 1,6 million de subventions. Donc c'est déjà maintenant la relance dans cette agglomération.
Comment avez-vous préparé et sélectionné les dossiers?
Il y a beaucoup de réunions de travail lancées par ma sous-préfète de Fort-Calquier avec les services de l'État, la direction départementale des territoires, l'agglomération, les communes, depuis le mois de janvier dernier. Donc on s'y est pris très tôt. Le document a été élaboré sur un gros semestre et là on a réussi à trouver une date qui nous permettait de célébrer tout ça et de marquer tout ça.
Avec également des réunions régulières pour évaluer le dispositif et faire une clause de revoyure aussi pour les financements jusqu'en 2026.
Exactement. Nous, le contrat qu'on a proposé à l'agglomération, c'est vous l'agglomération qui définissez vos axes stratégiques, qui déterminez vos projets pour 6 ans. Et c'est en ce sens qu'on a fait ce contrat. Mais 6 ans, c'est long, il peut se passer plein de choses. Les derniers mois nous l'ont confirmé. Et donc, on va se voir régulièrement pour concrétiser ces projets, pour vraiment les suivre très près. Et puis, s'il faut qu'on change quelques lignes et quelques projets, on le fera, on s'adaptera de façon très pragmatique pour coller aux besoins du territoire et des citoyens de cette agglomération.
Alors, des projets très divers et variés. Vous avez quelques exemples qui vous ont marqué?
Oui, déjà, on a tout ce qui touche à la gestion des déchets, qui est une compétence très importante des intercommunalités dont elles se saisissent. Et donc, on a pu financer un site de déchets sur le territoire. On a aussi rénové et thermiquement des logements communaux sur des communes. On en profite aussi pour refaire des hôtels de ville, des communes. Et ça, ça met de l'activité dans les carnets de commandes de nos entreprises. Voilà quelques exemples, il y en a évidemment beaucoup.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet de saupoudrage sur le territoire ?
Non, il n'y a pas de saupoudrage parce qu'on a des petits projets portés par des associations, par exemple en matière de cohésion sociale, qui, en ayant 20 000 euros, peuvent concrétiser leur projet. Vous avez à côté de ça un projet comme l'hydraulique agricole du plateau de Valensole, où on a une subvention de plus de 2 millions d'euros qui a été octroyée par le préfet de région cet été. Et puis vous avez ici à Manosque le lycée Martin Brett, qui va bénéficier de 10 millions de subventions de l'État. Donc on a adapté le montant des subventions à la hauteur des projets, et sur les gros projets, on ne saupoudre pas, au contraire, on est présent aujourd'hui comme on n'a pas pu être présent ces dernières années.
Vous l'avez dit avec un brin de fierté, on a réussi à avoir une belle enveloppe dans notre département.
Oui, on a réussi à avoir des belles enveloppes pour soutenir les projets des collectivités, pour que l'État, à travers ses propres bâtiments, puisse aussi montrer l'exemple. C'est le cas ici aussi à Manosque sur le centre de finances publiques. On y reviendra dans les prochaines semaines quand on ira le visiter, le mettre sous les projecteurs. Et puis en effet, sur les territoires d'industrie, on a 25% des lauréats de la région avec ces 12 entreprises pour 5 millions d'euros. Donc en effet, on est très fiers de représenter 25%, alors qu'évidemment, c'est pas du tout notre poids économique.
Un festival pour connaître l'habitat participatif.
Les Alpes de Haute-Provence accueillent le Festival Régional de l'Habitat Participatif. Il aura lieu les 2 et 3 octobre 2021 au centre de vacances de Biabo, sur la commune de Saint-Michel-l'Observatoire. Cet événement ouvert à tous et toutes, curieux, citoyens, professionnels, propose de plonger dans le monde de l'habitat participatif avec des rencontres, des ateliers, des tables rondes, sans oublier sa dimension festive, et avec des spectacles et des concerts. Basé sur le vivre ensemble, la cooptation et la coopération, en même temps que la fiabilité économique, l'habitat participatif est une autre manière de concevoir son logement et son voisinage. Accompagnatrice de projet dans le cadre de la structure Regain à Fort-Calquier, Charlotte Garcia présente ses deux jours au micro de Mathieu Marc.
Ce festival, pour nous, c'est vraiment un temps fort important dans l'année pour l'habitat participatif sur le territoire. L'idée, c'est de réunir très largement tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à ce type d'habitat et de leur proposer pendant 2 jours un endroit pour se réunir, se rencontrer, échanger avec tous les acteurs en lien sur ce sujet. L'idée, c'est de proposer donc à travers tout un tas d'ateliers, de tables rondes, de temps d'échange, des choses sur l'habitat participatif, mais aussi des sujets comme l'architecture écologique, l'habitat léger, des ateliers autour de la gouvernance partagée, pour découvrir des outils d'intelligence collective. Donc c'est quelque chose, un programme assez varié, assez pluriel.
C'est des intervenants et des intervenantes d'autres structures qui viennent participer à ce festival ?
Oui, alors on fait effectivement appel à des partenaires, il y a des architectes qui interviennent, des élus aussi qui présentent leur démarche, et puis on fait appel aussi à des collègues comme nous qui accompagnent des projets d'habitat participatif et qui viennent donc tenir un atelier sur tous ces sujets. Dans la programmation, on a aussi deux temps importants, un théâtre forum le samedi à 15h qui va parler de la notion d'habiter et de comment on peut investir ou réinvestir l'espace public. Donc c'est par la compagnie La Machine Émotive.
Préciser que le Théâtre Forum, c'est un dispositif où il y a à la fois des gens sur scène et aussi le public est invité à participer au spectacle, entre guillemets, en tout cas aux situations qui sont présentées sur scène.
Et enfin, une conférence gesticulée à 17h30 le samedi également, qui parlera des clés de réussite de l'habitat participatif, qui sera présentée par Audrey Jiquel, qui est aussi accompagnatrice d'habitat participatif. Un point important au-delà de la dimension habitat dans ce festival, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que ce soit un temps vraiment festif, convivial et familial. Donc en plus de la programmation habitat, on propose vraiment une programmation avec plein d'animations, des concerts. Donc il y a tout au long du week-end un espace lecture, un espace jeu, on a un petit spectacle de magie, des concerts le samedi soir. Donc voilà, c'est vraiment un événement familial. Le festival démarre le samedi 2 octobre à 14h. On vous invite, pour celles et ceux qui veulent venir avant, dès midi, à venir avec votre repas pour profiter du lieu. L'information importante, c'est que celles et ceux qui souhaiteraient profiter de tout le week-end, il est possible de dormir à Biabo et de réserver donc sur le site du FRAP une pension complète. il y a aussi une possibilité de camper avec une tente dans un terrain attenant. Et puis, il y a des food trucks et de quoi se restaurer et une buvette sur place, évidemment. L'entrée du festival est libre. On proposera à celles et ceux qui le souhaitent une participation libre et consciente que vous pourrez délivrer à l'accueil.
Un événement familial est vraiment ouvert à tous et toutes, autant aux individus qu'à des groupes projets ou à des professionnels, à des accompagnateurs, accompagnatrices, des collectivités.
C'est ça. L'idée, c'est vraiment de permettre à des gens qui ont peut-être simplement la curiosité de venir découvrir l'habitat participatif, de pouvoir se nourrir et de venir se former à l'habitat participatif. On propose aussi vraiment à des groupes qui sont déjà installés dans des lieux de venir témoigner de leur expérience. On invite aussi toutes les personnes qui ont envie de se lancer ou de rejoindre un projet à venir, parce qu'il y a aussi pendant le week-end un temps de ce qu'on appelle la bourse au projet pour des gens qui voudraient être accueillis par un collectif où il resterait une place, donc de venir rencontrer ses futurs voisins. Et oui, pareil, les architectes, les professionnels sont les bienvenus aussi pour ce temps.
Et ce festival a d'autant plus de sens que la structure Regain est déjà bien ancrée dans le pays de Fort-Calquier et autour.
Effectivement, on intervient d'ailleurs sur tout le territoire de la région PACA. On a à peu près une dizaine de projets qu'on accompagne actuellement, autant sur des missions d'accompagnement de collectifs, de collectivités ou de bailleurs sociaux.
Alors s'il y a des auditrices, auditeurs intéressés par l'habitat participatif à la fois pour ce festival, mais aussi de manière plus globale, par la structure Regain, est-ce que vous pouvez nous donner des contacts ?
Alors, pour le festival, toutes les informations sur le programme, sur les informations pratiques, vous les retrouverez sur le site internet qui est dédié au festival, www.frappe.com, frappe qui s'écrit F-R-H-A-P. Pour Regain et donc pour toutes les activités qu'on propose, le site c'est www.regain-hg.org.
Vous créez votre entreprise, ils peuvent vous aider.
Sur le territoire de l'agglomération Manosquine, plusieurs partenaires se sont unis pour aider les créateurs d'entreprises. En organisant plusieurs sessions, chaque mois, jusqu'en février 2022, la dynamique baptisée Création amène des réponses générales et spécifiques aux porteurs de projets. Manosque, Oraison et Riez accueillent ces ateliers pour des matinées studieuses et positives. À noter aussi deux jours, les 30 septembre et 1er octobre à Volx, dédiés à l'accompagnement à la création d'entreprises dans le bâtiment. Ces ateliers et formations sont entièrement gratuits. Pour tout renseignement et inscription, economie.dlva.fr. Je vous propose d'écouter trois partenaires de l'opération, Pôle emploi, la DLVA et Initiative Alpes-Provence, soit successivement Laurence Guillamot, André Mille et Jean-François Gonidec.
Laurence Guillamot, vous dirigez l'agence Pôle emploi de Manosque. C'est une synergie, en fait, entre le service de l'emploi, une collectivité territoriale et puis Initiative Alpes-Provence.
Tout à fait. Alors, sur le sujet de la création d'entreprises, de l'accompagnement à la création d'entreprises et au développement économique du territoire, c'est extrêmement important qu'on puisse travailler en partenariat avec les acteurs économiques, avec les collectivités et bien sûr avec les spécialistes de l'accompagnement à la création d'entreprises comme Initiative.
Vous avez déjà réalisé ce type d'opération avec un succès assez important au niveau des demandeurs d'emploi.
Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'au Pôle emploi de Manosque, les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'informations sur un certain nombre de questions qui peuvent se poser avant de se lancer dans la création d'entreprise, mais surtout de l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier dans la phase préparatoire à la création, ont fait depuis déjà de nombreuses années des rencontres hebdomadaires, donc des ateliers qui sont co-animés avec les professionnels de la création d'entreprise et ateliers d'une demi-journée où les demandeurs d'emploi peuvent aborder toutes les questions préalables à leur création d'entreprise et au lancement de leur projet.
Alors, des opérations qui vont se dérouler sur tout le territoire de la DLVA, mais il y en a une qui est particulière et qui va se dérouler à Volx à la fin du mois et qui concerne la création d'entreprise dans le bâtiment.
Ça s'appelle Créarbat, donc c'est une action de formation, là, carrément, de deux jours entiers, où des personnes qui souhaitent avoir tous les éléments en main avant de se lancer dans la création d'entreprise dans le bâtiment vont pouvoir bénéficier donc de cette formation avec tous les statuts, mais également toutes les assurances, enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans une création d'entreprise dans le bâtiment pour que ce soit rapidement rentable et pas se tromper de statut dans le bâtiment.
À vos côtés, le vice-président de la DLVA, André Mille, chargé du développement économique. C'est une réunion importante pour les personnes qui sont en besoin et qui veulent créer leur entreprise.
Non, mais ça perçoit qu'il y a une relance quand même au niveau national et une relance au niveau de notre territoire. La preuve en est qu'il y a des entreprises dynamiques, puisqu'il y a 8 entreprises quand même qui ont eu droit, qui ont été lauréats au plan de relance, c'est qu'une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes maintenant, ou qui sont en EPE, ou même qui veulent changer de métier, qui veulent se lancer dans l'entreprise. Mais puis, moi, si vous direz qu'on ne dira pas le contraire, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas partir à l'aventure comme ça. Il faut savoir d'abord un projet, financièrement, si ça tient, si le marché existe, tout ça. Et souvent, c'est des gens qui sont enthousiastes, mais je pense qu'on peut les cadrer, leur expliquer, et puis en faisant comme ça, le taux d'échec est très moindre, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est le suivi grâce à la plateforme qui peut les aider aussi, et je pense qu'il faut profiter, se servir de ces forces vives pour avoir de bons résultats et pour le bien-être du territoire et peut-être rapidement de l'emploi aussi.
Et tout cela sur plusieurs communes du territoire, ça aussi c'est important.
Moi, depuis que je suis élu à la DLVA, je dis qu'il faut que les choses fassent partie un peu toutes les communes du territoire. Là, ça se fera sur Yes, sur Horizon et sur Manosque. Et d'autres actions qu'on a fait dans notre cadre, je veux dire que dans le Verdon, tout ça, il faut que ça soit un maillage territorial. Voilà. Qu'on soit Manosque, la capitale économique, parce qu'il y a les zones, etc., l'entrée d'autoroute. Mais enfin, il ne faut pas oublier que toute initiative est bonne. Comme disait M. Godinec, dans un petit village, quelqu'un qui veut monter une petite affaire, un food truck, n'importe quoi. Mais le tout, c'est ces gens-là, les cadrer, les aider au démarrage. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des idées pas fantaisistes, mais enfin, c'est un parcours du combattant quand même. On ne va pas laisser partir les gens comme ça dans le désert.
Voilà. Alors justement, le cœur de métier de Jean-François Gonidec et d'Initiative Alpes-Provence, c'est la création d'entreprises. C'est une opération importante pour vous, pour recenser un petit peu et pour guider les personnes.
Oui, tout à fait. D'abord parce que cette action, elle est au cœur en fait de notre action. Notre action, c'est bien sûr d'accompagner un créateur dans la création, dans son projet, dans le financement de son projet. On lui donne aussi un coup de pouce en lui faisant un prêt personnel, mais on l'accompagne post-création pour enfin que à 3 ans, il ait toutes les chances en fait d'avoir une société qui tourne et qui se développe. Taux en fait des entreprises qu'on accompagne de survie à 3 ans est 93%, alors qu'en moyenne elle est 70%. Donc on est particulièrement content de s'associer à cette action qui est au cœur en fait de notre activité. Mais on est aussi content de s'y associer parce qu'elle représente aussi l'équilibre de nos territoires. On va intervenir à la fois sur des métiers spécialisés, le bâtiment, on va intervenir à la fois sur des cœurs de ville, comme à Manosque, mais on va intervenir aussi dans ce qui fait la richesse de la DLVA, comme l'a dit André Mille, c'est-à-dire des territoires ruraux. On sera présent à Rezon, on sera présent à Ariès. C'est pour nous important parce qu'on sait que la richesse et la création se fait souvent dans le village, souvent dans le lieu de vie, et donc il faut aller chercher et accompagner les créateurs là où ils vivent. On les accompagne aujourd'hui, bien sûr, avec toutes nos permanences, on les accompagne avec nos contacts, avec les élus et les représentants des élus, mais ces cafés création sont une opportunité de plus pour pouvoir, en fait, les contacter, les accompagner. Donc voilà, on est vraiment ravis de cette action. Comme l'a dit André Mills, on a la chance d'être dans un territoire qui est en train d'accueillir des populations et qui a probablement, dans cet accueil de populations, de grosses opportunités de création de richesses via la création, via l'entreprise. Eh bien, l'autre point qu'on coche, comme il y a eu ces heureux élus, en fait, dans le plan de relance, hein, André Mills l'a fait, ben, faisons la même chose sur les petites entreprises et créons une densification plus importante en accompagnant ces créateurs.
La randonnée est en fête ce week-end en Pays d'Innois.
C'est la 17e édition de cette belle manifestation, avec une 40aine d'itinéraires de tous niveaux. L'organisation de Provence-Alpes Agglomération devrait ravir le public. Placée sous le thème du pastoralisme et de la transhumance, la fête de la randonnée se déroule les 24 et 25 septembre, sur une bonne partie du 04, de Puymoisson à Saint-Vincent-les-Forts, en passant par les alentours d'Innois, les marcheurs sont gâtés. Les précisions de Mathieu Vincent, responsable du service activité pleine nature à l'agglomération d'Innoise. Il répond aux questions d'Odile Frison.
Mathieu Vincent, la 17e édition va avoir lieu, même si elle est soumise au pass sanitaire, 17e édition de Fête de la Rando.
Oui, tout à fait. Le week-end prochain, le 25 et 26 septembre, aura lieu donc la 17e édition de la fête de la randonnée à Provence-Alpes-Agglomération. C'est une fête qui se déroule pendant tout le week-end avec 41 randonnées qui sont proposées à la journée, soit la journée du samedi, la journée du dimanche. Il y a même 7 formules week-end en itinérance pendant 2 jours avec nuit en gîte et en refuge. Cette année, la fête de la randonnée aura pour thème la transhumance et le pastoralisme, avec la création d'un nouveau chemin de grande randonnée sur notre territoire, le GR 69 Larouto, qui vient de la plaine de l'Acro, qui va jusqu'en Italie et qui traverse tout le territoire de Provence-Alpes-Agglomération. Donc à l'occasion de ce nouveau GR qui va être inauguré en 2021, on a décidé de thématiser la fête de la randonnée sur la transhumance et le pastoralisme. Donc les 40 randonnées qui sont prévues seront autour de ce thème-là pendant tout le week-end. Et donc on aura l'occasion notamment d'aller en alpage rencontrer des bergers, voir leur métier, d'aller découvrir des alpages un peu plus hauts et plus sauvages. On a des randonnées gourmandes aussi pour aller déguster les produits locaux chez les producteurs. On a des rencontres aussi avec des ingénieurs forestiers ou du CERPAM qui vont nous parler de leur métier. On a des randonnées littéraires de Giono aussi sur le thème de la transhumance et du pastoralisme. On a des circuits aussi sur le nouveau GR Larouto. Bref, on a un programme très très riche pour découvrir 40 randonnées sur notre territoire le samedi et dimanche 25 et 26 septembre.
Vous attendez évidemment bien sûr du monde et il y a même des randonnées qui sont déjà complètes.
Oui, tout à fait. On a déjà 11 randonnées qui sont déjà complètes à une semaine de l'événement. Quoi qu'il en soit, il reste la possibilité de s'inscrire sur les autres circuits. Donc les inscriptions se font auprès de l'office de tourisme de Digne-les-Bains. C'est lui qui centralise les inscriptions. Vous pouvez les contacter par téléphone directement. Et puis le jour même de l'événement, il sera possible aussi de s'inscrire sur place. Donc le samedi matin ou le dimanche matin entre 7h et 8h30, sachant que cette année, la fête de la randonnée, on sera au musée promenade de l'UNESCO Géoparc à Digne-les-Bains. Donc le point de rendez-vous aura lieu là-bas et les gens pourront retirer leur dossier d'inscription sur place et venir s'inscrire le jour même s'ils le souhaitent.
On rappelle que le tarif est quand même assez faible puisque c'est 5€ pour une journée, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On a voulu faire un tarif accessible pour que les gens viennent participer à la manifestation. Donc c'est bien 5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et à cette occasion, pour chaque participant, on offrira un t-shirt collector de l'événement. À leur arrivée, ils ont droit à une petite collation avec des produits bio et locaux. Et puis en fin de journée, quand ils reviendront vers 17h, il y a une tombola aussi qui est prévue, où il y aura de nombreux lots à gagner. Et puis on leur proposera aussi un petit buffet à base de produits locaux en fin de journée, le samedi et le dimanche soir.
Pour que cette fête de la rando ait lieu, bien sûr, il y a de nombreux partenaires financiers et aussi de nombreux bénévoles.
Oui, alors en effet, cette opération peut avoir lieu grâce à un soutien financier fort de l'Europe dans le cadre du programme Leader, avec des financements de l'Europe, de la région et du département. Et puis Provence-Alpes-Agglomération aussi qui prend en charge une partie de l'événement. Et puis d'un point de vue humain et technique, on organise cette manifestation depuis 17 ans maintenant en partenariat avec le comité départemental de la randonnée pédestre et tous ces clubs de randonnée. Ce sont ces bénévoles-là qui vous accompagneront pendant vos randonnées le samedi et le dimanche. Donc ce sont des bénévoles de la Fédération française de la randonnée pédestre. Et puis cette année, on a aussi le soutien d'autres structures qui nous ont rejoints. Donc il y a la Maison de la Transhumance qui encadrera aussi des sorties. Il y a l'UNESCO Géoparc aussi qui sera présent. Il y a le musée Gassendi aussi qui proposera des sorties. Le centre Kern, le parc naturel régional du Verdon aussi qui proposera des sorties accompagnées. Le centre Giono, l'Office national des forêts également qui sera partenaire de l'événement. Donc c'est vraiment une grande fête de la randonnée où tous les acteurs du territoire se réunissent pour faire découvrir le territoire de Provence-Alpes-Agglomération.
Une possibilité de mieux découvrir le territoire en étant accompagné par des professionnels, des accompagnateurs de montagne.
Oui, tout à fait. Alors en fait, sur notre territoire, on a 150 itinéraires de randonnée qui sont balisés, qu'on peut pratiquer toute l'année librement quand vous le souhaitez. Vous pouvez trouver les cartes à l'office de tourisme, tous ces sentiers de randonnée. Et puis, ben, une fois par an, on fait une fête à l'automne qui s'appelle la fête de la rando, où l'idée, c'est de permettre aux gens de venir accompagner, découvrir des circuits, sortir des sentiers battus aussi, puis découvrir d'autres sites un peu plus sauvages, avec des gens du pays qui vont vous parler de notre région, de là où ils sont, de la faune, de la flore, et puis passer des temps en commun, partager. Et je pense que c'est important dans cette période qu'on peut traverser.
Et puis on rappelle donc que bien sûr cette rando est soumise au pass sanitaire vu la conjoncture actuelle, mais pour ceux qui n'auraient pas subi un test ou il y a possibilité sur place de faire un test.
Oui, tout à fait. Donc, on est soumis au pass sanitaire en fonction de la réglementation. Donc, il est obligatoire pour les participants pour la fête de la randonnée. Et sachant que s'ils ont oublié ou s'ils ne l'ont pas, il y a la protection civile qui sera présente le matin, le samedi matin et le dimanche matin. Ils pourront faire un test rapide afin de pouvoir présenter un pass sanitaire valide et pouvoir s'inscrire pour la randonnée.
Le Boumas, groupe folklorique, traverse le temps à Sisteron.
Le quadrille sisteronais et fanfare du Boumas danse et fait danser depuis 1920. Tout a commencé par un groupe de joaillerie, musiciens et amoureux de la Provence et de ses traditions, qui s'est constitué et nommé la fanfare du Boumas au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il répétait au milieu des vignes dans un cabanon du Boumas, un ancien quartier de Sisteron, de l'autre côté de la Durance. Et plus de 100 ans après, c'est avec le même entrain que le groupe folklorique de Sisteron continue de faire danser. Le terme de quadrille définit-il complètement l'esprit du groupe ? Renaud Jean, qui préside le quadrille sisteronais fanfare du Boumas, et son vice-président Yves Barnot présentent la formation au micro de Chris Alessandri.
Alors ça le définit évidemment parce que le quadrille c'est une danse. C'est une danse et on est un groupe de danseurs. Donc, il a été créé une danse d'après des musiques militaires et ce qui se faisait à l'époque en 1925. Une danse qui s'appelait le quadrille sisteronais et le groupe a pris le nom de cette danse-là.
Créé en 1925, c'est le groupe le plus ancien du Sud qui persiste toujours et qui est toujours là.
En tant que groupe folklorique, oui, on peut le dire, oui, sans problème. Les premiers statuts ont été déposés à la préfecture. Le groupe est un peu plus ancien que ça, forcément, il faut quand même une année, deux années. Mais voilà, donc on dit 1925, comme ça on est sûr de la date.
Danseurs et danseuses vont danser sur des danses et musiques traditionnelles. C'est bien ça pour définir le contexte quand on vient vous voir ?
Musique traditionnelle, populaire et sisteronaise, parce qu'elles ont, il y en a certaines qui ont été écrites par des maîtres musiciens sisteronais à l'époque. On parlait entre nous tout à l'heure de la valse Louise. La valse Louise a été écrite par un des chefs de la fanfare du Boumas et chorégraphiée par les danseurs de la fanfare du Boumas.
Oui, c'est certainement une inspiration. Bon, après, nos musiciens avaient l'habitude de répéter à la fanfare du Boumas. Il y avait une maison qu'on appelait à l'époque la Villa Louise. Je pense qu'en revenant un jour d'une répétition un peu arrosée au quartier du Boumas, Adolphe Pellegrin a écrit une valse qu'on appelle la valse Louise. Et que nous, on dénote maintenant plutôt Louise.
Renaud et Yves, de quelle façon se fait cette transmission ? Parce qu'elle est toujours là depuis 1925, elle est intacte.
On espère qu'elle est intacte. Nous, je vais parler pour moi, le premier, j'ai récupéré des infos par les anciens présidents, par ma présence au groupe depuis un certain temps maintenant. Et j'espère que ce que je raconte aux jeunes qui viennent faire de la musique ou danser avec nous, eh ben c'est juste et qu'on n'est pas sur le mauvais chemin. Alors le quadrille, pour être bien dansé et bien apprécié, normalement ça se danse à 8 couples de danseurs.
Quels sont les instruments qu'on va retrouver ?
Alors toute une fanfare, ça part des percussions, après il y a les cuivres avec les trompettes, les trombones, les basses. Ensuite, on a des instruments de la famille des bois, comme les clarinettes, les saxophones et flûtes traversières. Voilà, tout ce qui compose une fanfare dans la tradition sisteronaise. Contrairement aux autres groupes folkloriques qui sont accompagnés de galoubets, tambourins et autres fifres. Notre différence est vraiment là, c'est qu'on a une fanfare, parce qu'à Sisteron, ben, y a toujours une fanfare et il n'y a jamais eu un galoubet tambourin qui a accompagné les danseurs. Ou alors un émigré du sud du département qui a décidé de venir essayer de faire du tambourin à Sisteron.
Vous êtes des passionnés, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime pour continuer à transmettre ce flambeau avec cette envie de partager ?
Alors moi personnellement, c'est le souvenir de tout ce que j'ai fait avant au sein de ce groupe. Depuis j'ai dû commencer, j'étais pas encore majeur, donc je vais avoir 16-17 ans. Tout ce que j'ai vécu au sein de ce groupe, ben, j'ai envie que d'autres personnes puissent le vivre. Et puis quand je vois les petits du centre de loisirs entre 5 et 12 ans qui ont le sourire à la fin d'une répétition, ben voilà, c'est gagné.
Ce qui est beau, c'est ça, c'est le sourire de ces enfants et de cette joie qui est donnée aux enfants de Sisteron de pouvoir venir à ce quadrille dont beaucoup de mamans ont rêvé et donc n'ont jamais osé venir et faire le pas. Actuellement, c'est les mamans qui viennent, les papas, les enfants et bientôt les petits-enfants.
Quand on vous voit en représentation, les costumes sont tous uniques et pourtant en même temps il faut une unité, il faut vraiment une cohésion. Vous parlez un tout petit peu de cet esprit que vous avez ?
Ah, les costumes c'est le gros problème des groupes provençaux, on va dire, et puis nous encore plus à Sisteron. On a un costume qui est censé représenter le costume du dimanche, le costume, on va dire, de fête qu'avaient les paysans de l'époque, et donc on parle du début du XXe siècle. Et ensuite, au fil des ans, il a été décidé dans le groupe de l'actualiser, surtout de le scénographier, enfin, qu'il soit vraiment une belle représentation sur scène, qu'on le voit de loin, qu'il y ait des couleurs, que ce soit chatoyant. Peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas autant de couleurs que ça. Je sais pas, j'étais pas né. Mais on espère qu'on est dans le vrai. Il y a eu beaucoup de recherches grâce à des amis qui sont très dans la Provence, très dans les livres provençaux. Il y a des gens comme Madame Janine Mollet de Manosque qui a écrit des livres, Madame Michel de Sisteron qui a écrit des livres sur le costume provençal. Donc, je pense pas qu'on soit loin de la vérité. Après, on fait du spectacle. On fait du folklore, mais c'est du spectacle aussi, donc il faut que ce soit joli à regarder.
Alors ce costume, en fait, il a été défini pour les journées de l'art alpin entre 1928 et 1932, je me souviens pas tout à fait de la date, hein, par Marcel Provence. Marcel était presque l'équivalent de Frédéric Mistral, je me mouille, mais c'était quelqu'un qui avait une place très importante au niveau de la Provence et surtout de la Provence alpine sur toute la région. C'était quelqu'un qui était érudit, qui a fait beaucoup de choses. C'est grâce à Marcel Provence que les fêtes de la citadelle ont commencé, et à Madame Massot-Devez, présidente du Quadri Sisteronais. Donc c'est quand même des gens qui savaient de quoi ils parlaient, et on est toujours à peu près dans le style de costume qui a été défini à cette époque-là. Ce style, il est de la Haute-Provence. C'est le costume de chez nous et on n'a pas à rougir de notre costume car il est très beau.
Quadri Sisteronais et Fanfare du Bouma, c'est une seule et même unité, nous sommes d'accord.
Une seule et même unité depuis 1925, depuis que les statuts ont été déposés en préfecture.
Au programme, quand on vous voit en spectacle, le spectacle, comment le définir? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Parce qu'il y a vraiment un fil conducteur dans ce que vous présentez.
Il y a un fil conducteur dans le fait qu'on essaye d'avoir un spectacle, donc que ce soit attrayant pour que les gens nous regardent. Si on danse pendant 20 minutes, il faut que pendant 20 minutes, ils nous regardent, ils aient pas envie de partir. Donc le fil conducteur, c'est les musiques connues par tout le monde, qu'ils soient provençaux ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient juste des visiteurs de passage sur Sisteron ou ailleurs, là où on va, bien sûr, quand on est invité. C'est-à-dire la mazurka sous les pins, la partie de pétanque, ce sont des vraies musiques provençales très ancrées dans la France, quand même, j'ose le dire. Et puis à côté, des musiques peut-être un peu moins connues et bien plus rapides, entraînantes, montrant les jupes qui tournent. Maintenant, on a des enfants qui dansent avec nous. Enfin, des enfants, j'aurais pu dire des enfants parce qu'ils ont 13 ans. Donc, c'est des pré-ados qui ont pris le virus de leurs parents. Et rien que ça, ben, ça attire l'œil et le public reste avec nous.
Yves, pour le plaisir, quelques titres comme ça de musique, chansons qui nous viennent d'antan.
Emblématique, il y a la mazurka sous les pins, hein, qui est connue dans toute la France et à l'extérieur de la France. Et puis bien sûr, il y a le quadrille de Sisteron, nos danses emblématiques. Et nous finissons souvent par ce quadrille qui fait la joie de tout le monde, des danseurs et des spectateurs et de nos enfants. Il est à noter aussi que nous avons la chance, grâce aux jeunes qui sont en train de reprendre le flambeau, nous les grands-parents, de pouvoir regarder cette association qui va continuer. Grâce au travail qui est fait par les jeunes au centre de loisirs, nous avons au centre de loisirs quand même 27 petits. Ces enfants viennent de danser, ils viennent de grossir les rangs. Tous heureux de danser ce quadrille, c'est vraiment extraordinaire. Et la fanfare elle-même rajeunit, toujours dans le tissu économique local associatif de Sisteron, qui fait le bonheur de tous les Sisteronais. Et j'espère que dans 100 ans, on parlera encore de cette fanfare du Boumas.
Et je terminerai par dire la phrase fétiche de la fanfare de 1920. La fanfare a été créée pour ne s'occuper ni de politique ni de raisons personnelles. Et son adage, c'est « laisser dire et bien faire ».
C'est la fin de ce magazine. Merci François et à la semaine prochaine.
Merci Colline pour la régie. À bientôt.